Les statistiques font savoir et laissent entendre que le vaccin est sécuritaire pour une grande majorité des gens, mais une minorité de personnes vaccinées ont pu avoir des effets secondaires néfastes. Et il y a un programme d'indemnisation pour des réactions au vaccin contre la COVID-19 qui sont en place par le gouvernement. Évidemment, le gouvernement du Québec devrait verser dans les prochains mois les premiers montants d'indemnisation aux patients qui ont eu donc des réactions graves, je dis bien graves, liées à un vaccin de la COVID-19, et il serait au nombre de 550, 545 ou 550. Nous allons parler à Maître Jean-Sébastien Damour, qui est avocat spécialisé en droit médical et qui, justement, représente des gens qui ont eu des problèmes et des effets secondaires néfastes suite à la vaccination. Bonjour, Maître Damour.
Bonjour, M. Mongrain.
Dites-moi, Maître Damour, quand on lance un programme d'indemnisation, il faut voir le lien causal qui existe entre la vaccination comme telle et l'effet sur la santé. Comment on établit ça quand on est avocat et qu'on représente quelqu'un pour être indemnisé?
Tout à fait. Bien, le programme qui a été mis en place, c'est un programme qui existe au Québec depuis 1985. Donc, ça couvre plusieurs vaccinations. Ça couvre les vaccinations régulières. Ça a couvert, entre autres, la vaccination de la grippe H1N1. Et maintenant, on en entend beaucoup plus parler, bien entendu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait vacciner ou qui vont bientôt se faire vacciner pour la COVID-19. Alors, au niveau du dossier qu'il faut monter, mais c'est important pour que la demande soit recevable de prévoir un certificat médical et d'obtenir une opinion d'un médecin qui va venir établir un lien causal entre le vaccin et le préjudice qui est arrivé.
OK. Donc, on n'ira pas trop vite parce que vous êtes avocat, vous êtes habitué de jongler avec ces principes et ces notions-là, mais le public et nous, peut-être pas. Donc, l'établissement du lien causal entre le malaise que je ressens, c'est pas un malaise que ça doit être. Il doit être vérifié par un médecin, investigué par un médecin et confirmé par une consultation médicale que, effectivement, le trouble que j'ai est lié à ma vaccination.
Oui. Donc, quand on dépose la demande, un certificat médical doit être déposé avec celle-ci. Et après ça, il va y avoir un comité qui va être formé de 3 médecins qui va se réunir. Donc, un médecin qui va être nommé par le patient, un médecin qui va être nommé par le ministère de la Santé, puis ensuite les 2 médecins entre eux vont en nommer un 3e. Et ce sont ces 3 médecins-là qui vont faire une recommandation au ministère de la Santé pour savoir si probablement l'effet secondaire grave a été causé par la vaccination. Et dans tout ce processus-là, bien, il y a des documents qui peuvent être fournis et surtout, la victime peut avoir à se soumettre à des examens médicaux pour étudier tout ça.
C'est quoi grave? Parce que, bon, j'ai manqué 2 jours de travail parce que j'étais fatigué, j'étais vraiment le VGD, j'étais courbaturé. C'est-tu grave, ça, ou bien c'est pas grave? C'est quoi la gravité? Est-ce qu'il y a des critères objectifs qui sont mis en place pour les conditions d'accessibilité à une indemnisation?
Oui, alors selon le régime actuel, là, avoir manqué quelques jours de travail parce qu'on a fait de la fièvre, on se sentait pas bien, puis après ça, tout revient, ça, c'est pas assez grave selon le régime actuel pour avoir droit à une indemnisation. En fait, c'est un programme qui est calqué sur les mêmes barèmes que celui de la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, on doit atteindre le même degré de gravité que pour avoir droit à une indemnisation si on a un accident automobile. Donc, essentiellement, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut avoir un préjudice, donc un dommage, qui va avoir un certain degré de permanence et de gravité. Donc, souvent, c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps, qui va être permanent, et non pas un inconvénient qui peut être grave, mais très temporaire. Donc, si c'est quelqu'un qui se sent mal pendant quelques jours, ce ne sera pas suffisant au sens du programme d'indemnisation des victimes d'une vaccination pour avoir droit à une compensation financière.
Je vois ici que, selon le ministère, une manifestation clinique inhabituelle est considérée comme grave si elle nécessite une hospitalisation de 24 heures ou plus. Mais 24 heures, c'est pas long à l'hôpital, là. Est-ce que c'est grave? Il faut-tu que ça soit juste l'hospitalisation? Ou si s'ajoute à ça que ça menace la vie du patient ou encore si ça provoque des séquelles permanentes ou si c'est suivi d'un décès. Là, on le comprend, c'est assez grave comme effet secondaire. Mais autrement dit, 24 heures à l'hôpital, là, je peux passer 24 heures à l'hôpital puis ressortir puis être très, très bien. Donc, c'est pas suffisant le 24 heures ou si 24 heures d'hospitalisation suffisent?
C'est pas suffisant. Il faut faire attention parce que si on jongle avec différents concepts qui n'ont pas les mêmes objectifs. Ici, quand on va parler des gens qui ont des effets secondaires graves au sens de l'INSPQ, donc l'Institut national de santé publique, ça, c'est vraiment dans un objectif de surveillance des effets secondaires de la vaccination au Québec. Quand on parle de l'indemnisation des victimes d'une vaccination, on va parler d'un préjudice qui doit être permanent, grave, qui peut être physique ou mental. Donc, ça peut même être un préjudice mental, mais il doit être permanent. Alors, ça, c'est une notion spécifique, la notion de permanence qui s'applique pour l'indemnisation d'une victime de vaccination.
Qu'est-ce que ça veut dire comme indemnisation? C'est-tu des montants considérables? Comment la grille de compensation est bâtie?
Alors, ce sont des montants qui peuvent être assez importants. Donc, la grille, comme je le disais, c'est la grille de la SAC. En moyenne, en fait, depuis l'existence du programme aujourd'hui, il y a eu 53 personnes qui ont eu droit au versement d'une indemnité. Et l'indemnité moyenne est de 128 150 personnes. Donc, on parle quand même d'indemnités qui peuvent être conséquentes. Et ça peut osciller. Comme si on parle, par exemple, d'un décès, donc là on est dans les cas bien entendu graves, le conjoint par exemple d'une personne décédée ou la conjointe peut recevoir un montant qui oscille entre 73 846 $ et 415 000. Donc il y a toujours des fourchettes qui sont assez larges pour qu'il y ait de la place pour le cas par cas, mais on va parler d'indemnités qui peuvent être conséquentes parce que bien sûr on parle de préjudices qui sont permanents et qui sont graves.
Il faut faire une précision ici, quand vous avez nommé ce nombre de cas, c'est depuis l'existence du programme, là, dans les années 80.
Exactement. Donc, c'est depuis 1988, en fait, que les premières demandes ont été formulées. Donc, il y a très peu de demandes qui ont été faites durant l'histoire du programme. C'est un programme qui est relativement peu connu. Puis, il y aurait eu 287 demandes de fait depuis l'existence. Donc, on parle d'un taux d'indemnisation d'environ 18,5%, ce qui, à mon avis, est assez faible. Donc, je pense que ça souligne l'importance pour les victimes de bien préparer leur dossier afin de maximiser leurs chances de recevoir une indemnité.
Il faut le répéter, là, je pense, pour pas que les gens comprennent, parce qu'ils seraient inattentifs pendant quelques secondes, entre les cônes oranges s'ils sont en voiture, de comprendre que ce programme existe depuis 1988 et depuis le début, il y a 53 demandes d'indemnisation qui ont été acceptées. Alors, ce n'est pas le cas de COVID, c'est depuis le H1N1. Là.
Tout à fait. Okay. À date, on sait qu'il y a eu 10 demandes qui ont été formulées pour la COVID. Et à ce stade-ci, il n'y a aucune de ces demandes-là qui a terminé son processus d'évaluation. Donc, on ne sait pas si ces demandes ultimement seront acceptées ou refusées. Mais c'est bien important de savoir aussi que les victimes ont 3 ans pour présenter leurs demandes.
3 ans? Donc, depuis quand? Depuis qu'ils ont été vaccinés? Ou 3 ans depuis quand ils commencent à sentir qu'ils ont un problème?
Oui, alors ça, c'est une très bonne question. Donc, la date de début officielle, c'est la date de vaccination. Okay. Ou bien la date du décès, si malheureusement, c'est un décès qui arrive. Cependant, si c'est un dommage qui survient tardivement, parce que ça peut arriver parfois que les dommages surviennent plus tard, ben c'est au moment où le dommage se manifeste pour la première fois. Donc, c'est à partir de ce moment-là que le délai de 3 ans va commencer à courir.
S'il se manifeste pour la première fois puis que ça me prend 6 mois avant d'avoir une opinion médicale pour confirmer que c'est bien le lien causal, c'est le papier médical qui va faire foi, je présume, du début du délai de 3 ans.
Malheureusement, non. C'est vraiment au moment où les symptômes commencent. Donc, c'est pour ça que et où le dommage se manifeste. Même si on a le certificat médical 6 mois après, il va y avoir 6 mois qui va s'être écoulé dans le délai de 3 ans. Alors, c'est important d'agir rapidement parce qu'effectivement, si on débute le processus une semaine avant la fin du délai de 3 ans, ça se peut qu'on n'ait pas le temps de monter son dossier adéquatement.
Exact.
Il faut agir rapidement dans ces cas-là pour être sûr de ne pas perdre de droits.
Est-ce que présentement vous représentez, je pense, quelqu'un dans cette affaire-là?
Évidemment, je peux pas parler de cas spécifiques là, mais j'ai été consulté, je représente des gens dans cette situation-là.
Est-ce qu'on est dans des cas graves, des cas lourds, ou si c'est des cas qui demanderaient une compensation, mais peut-être pas énorme? Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que à quelle place mon trouble ou mon problème de santé doit se rendre pour que je me dise apte à obtenir une compensation? Si c'est pour avoir 50 cents, je vais embrasser mon bobo puis je vais laisser faire, là.
Bien, généralement, évidemment, effectivement, c'est des cas qui valent la peine là pour présenter une demande d'indemnisation. Cependant, il faut savoir que si quelqu'un à la maison se pose la question en se disant ben, est-ce que j'ai subi des dommages suffisamment graves, ben souvent ça vaut la peine là, d'appeler un conseiller juridique pour avoir une réponse parce que il y a plusieurs personnes qui ont des droits à faire valoir qui ne le sachent pas.
Ben oui.
Ils ne le savent pas et malheureusement, ben, les gens sont informés de ça
trop tard.
Trop tard lorsque les délais sont échus.
Je pense bien, mais il ne faut pas non plus courir à la loterie, là. C'est pas ça qui est le jeu de ce programme d'indemnisation. Dire, je vais aller voir tout d'un coup que j'ai une chance. C'est pas tout à fait ça. Il faut vraiment se sentir pas bien, comprendre que je ne suis plus qui j'étais tout à fait et je n'ai pas la même qualité de vie, donc je vais aller vérifier.
Oui, tout à fait. Puis la meilleure façon, ce n'est pas de déposer une demande au cas où, c'est vraiment de consulter des conseillers juridiques qui vont être capables d'éclairer les gens avant de présenter une demande. Le but, évidemment, c'est pas de saturer le programme non plus, mais de présenter des demandes d'indemnisation lorsqu'on a une cause sérieuse à faire valoir.
Maître Jean-Sébastien Damour, avocat spécialisé en droit médical, merci beaucoup de ces informations.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir. On s'arrête pour une pause. Je reviens avec la question de grève potentielle et possible et éventuelle aux douanes. Qu'est-ce qui va arriver pour la chaîne d'approvisionnement et pour les consommateurs?